LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Un jour étant en diligence, sur une route entre deux bois, je branlais avec assurance.
Archives sur les docks, 2009, Requiem pour une salle de garde.
J'avais retroussé sa chemise, et mis le doigt sur son bouton, et je brandais malgré la bise à déchirer mon pantalon.
Il y a ce qu'on appelle la corporation des étudiants en médecine, la corpo. Eux, ils vont un petit peu gérer toute la vie étudiante des étudiants en médecine et organiser ces rites, ces fêtes, des cérémoniales d'investiture quand on rentre dans la corpo. Après, il y a les faluches avec les espèces de bérets, avec les pins, les chaînes autour du cou, on doit se mettre à genoux, des vraies cérémonies qui sont pas du tout anodines, quoi. Il faut vraiment rentrer dans le corps, rentrer dans la caste, et c'est quelque chose qui est intériorisé du coup dès le début des études. Donc, il faut faire partie de ce groupe. Si on critique ces fêtes ou ces rites, va vite nous faire comprendre que peut-être on n'est pas fait pour médecine, en fait. C'est-à-dire que dès le début, on a compris qu'on était une espèce de groupe vraiment particulier, presque une sorte de secte où il fallait s'intégrer, que c'est donc normal qu'on ait nos propres codes, nos propres choses à nous. Et donc ensuite, au niveau de l'ordre des médecins, c'est encore une autre opacité dans le système qui suit ça, dans une suite logique. Avec ses propres règles, sa propre justice. On n'a pas le droit d'être non confraternel, hein, c'est interdit. On peut se retrouver à ne plus pouvoir être médecin si on n'a pas été confraternel avec un autre médecin. Donc, même si on sait qu'il déconne complètement, ce qui n'est pas très déontologique, finalement, si on y réfléchit vraiment. Mais...
La fabrique des médecins, auscultation d'une pratique d'hier à aujourd'hui, Juliette Boutillier, Marie-Laure Ciboulet. Après le serment, quelle perspective ?
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments.
Physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Campagne de l'Ordre des médecins.
J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Le quotidien du médecin. 16 septembre 2022. Les quelques 8600 futurs médecins valident leur spécialité et leur CHU de rattachement. À la lumière de ce choix, le quotidien dresse un bilan détaillé des disciplines les plus prisées des juniors. Sans surprise, c'est à nouveau la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique qui arrive en tête des spécialités préférées des internes. En moins de 2 jours, la totalité des 28 postes offerts dans la discipline sont raflés sur toute la France. En 2022 encore, le quatuor de tête reste inchangé. En deuxième place, on retrouve l'ophtalmologie, suivie de la dermatologie et de la cardiologie. En cinquième position, la néphrologie. Si les choix d'affectation combinent de nombreux facteurs, le top 10 du palmarès concentre à nouveau les spé les plus rémunératrices.
Je donnerai mes soins à l'indigent.
Alors qu'elle agrège la moitié des futurs internes, 3388, la médecine générale reste cantonnée vers le bas du classement, puisqu'elle se situe en 39e position sur 44 des spécialités préférées des internes. Inlassablement, la psychiatrie, la gériatrie, la biologie médicale, la santé publique et la médecine du travail occupent le bas du palmarès.
Je porterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité.
Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences.
Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. Chaque jour, ces engagements nous guident pour exercer notre mission et faire avancer notre système de santé. Médecin, notre engagement, c'est pour la vie.
Nous t'écoutons. Allez. Lève la main, Lupin.
Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité.
Le moment de déclamer le serment, ça reste
Pauline.
Un moment très symbolique. Tous les étudiants en médecine se sentent
jeune médecin généraliste
honorés de le déclarer, mais c'est sûr que en lisant certains passages, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on n'est pas tout à fait honnête en déclamant ce serment tel quel. Quand on constate certaines choses durant les études sur le fait de ne pas rechercher la faire profit ou de ne pas faire de discrimination ou des choses comme ça, où on se dit, bon, c'est peut-être pas tout à fait réel ce que je suis en train de dire et c'est peut-être plus de l'ordre du symbole et c'est pas forcément facile à déclarer.
Je respecterai les secrets des foyers. Et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je m'appelle Léopold, donc j'ai soutenu ma thèse d'exercice le 3 octobre dernier devant mon jury, composé de deux professeurs des universités praticiens hospitaliers, d'une de mes chefs et d'un public avec ma famille, mon petit ami, mes amis, ce qui était donc très émouvant. Donc après la présentation et les délibérations du jury, j'étais un peu dissocié. J'avais un peu du mal à me rendre compte de ce que je ressentais, mais en tout cas, j'ai ressenti quelque chose d'assez fort, je pense, à la fois solennel et libérant. Et surtout solennel, hein, le texte, la langue de ce serment sont assez anciens, certains termes sont assez archaïques, mais c'est un exercice qui me paraissait important. Bon, on a aussi le choix avec le serment dit de Genève, qui est plus moderne.
Oui, je l'ai juré, ce serment, et c'est un moment extrêmement émouvant et solennel. Dès que je participe à une soutenance de thèse à la faculté de médecine, les jeunes médecins aujourd'hui le jurent, et souvent c'est un moment vraiment très, très profond, c'est une bascule symbolique, c'est le jour où on devient véritablement médecin.
Christian Bonnat, médecin et historien.
C'est un rite de passage qui, à mon sens, a un sens à ce titre-là. Ce serment, en fait, il trame d'une certaine manière qui a des droits. Il y a des choses que le médecin a le droit de faire que d'autres professions n'ont pas le droit de faire. Et ces droits vont loin. Hein, c'est des choses très simples. C'est quand un médecin dit à un patient ou une patiente, déshabillez-vous, ben la personne se déshabille. C'est puissant. C'est un serment qu'on jure, mais il n'a pas de valeur juridique dans le sens où je ne peux pas être poursuivi devant un tribunal pour non-respect du serment d'Hippocrate. L'ordre des médecins a une chambre disciplinaire qui peut effectivement intervenir, mais ce serment, bien que symbolique, nécessite que le médecin qui le jure, qui l'a juré, se sente véritablement concerné par les enjeux qui sont présents dans ce serment. Pour que ça ne soit pas une formule vide qu'on recite et après on passe à autre chose.
Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers.
Le serment d'Hippocrate, on considère, en tout cas les linguistes, historiens considèrent que dans ce serment, il n'y a pas grand-chose qui aurait été écrit véritablement par Hippocrate. Donc il est postérieur à Hippocrate et c'est un serment qui sert entre autres à confédérer la corporation, c'est-à-dire d'établir des lignes de bonne conduite pour les uns et les autres. C'est à quoi il faut se tenir si on veut participer et appartenir à ce corps. Le serment d'Hippocrate n'a pas été juré par tous les médecins de tous les temps, partout, etc. Donc c'est un serment qui a existé dans la Grèce antique, qui a disparu ensuite, et il a été réexhumé, en fait, par la profession au moment de la professionnalisation forte, au moment où il fallait rediscipliner, en quelque sorte, la corporation, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle en France.
Moi, c'est Rosalie.
Et moi, c'est Clémentine.
D'accord. Et vous êtes là depuis combien de temps, à la fanfare?
On vient d'y arriver, vu qu'on est des P2, donc des deuxième années.
Et du coup, on a été au premier événement dimanche à la course des CA.
Et alors, vous disiez que ça avait à voir avec un peu l'esprit carabin, quand même?
À côté du quotidien, la tribune de Libération d'avril 2022, les étudiants en médecine vont-ils se révolter, estiment que l'approche individualiste et compétitive de la formation, classement à l'internat, publication personnelle, parcours de formation, n'est plus adaptée au monde actuel. Comme dans certaines grandes écoles, comme AgroParisTech, les futurs médecins ont peut-être un désir de cohérence entre les valeurs intimes qu'ils portent et l'exercice futur de leur profession. Alors, à l'avenir, quels profils de médecins seront le plus nécessaires ? À l'heure de l'hyperspécialisation, des déserts médicaux, les soignants de tout horizon vont devoir collaborer dans des communautés professionnelles. Les facteurs humains doivent être intégrés, ainsi que la notion du collectif, bousculant ainsi le paradigme de l'étudiant isolé.
Les communautés, parce que c'est un peu communautaire, voire même clanique, hein, c'est ambivalent. Parce que être dans un système plutôt corporatiste, dans une corporation en tout cas, ça engendre des privilèges, mais ça fait qu'aussi ça restreint beaucoup les possibilités d'aide et de ressources que l'on a. Donc en fait, c'est très ambivalent.
Célia Belle-Rose, docteure en psychologie clinique et neurosciences exerçant à la SPS.
Et c'est là où le bas blesse, parce que ce qui fait et ce qui engendre le côté élitiste et privilégié a comme négatif que quand on a des problèmes, on ne peut pas s'en sortir et il faut trouver une solution dans ce groupe, dans ce clan. Et ben, des fois, ça manque, parce qu'on sait très bien que pour pouvoir être épanoui, il faut avoir une ouverture, pouvoir solliciter plusieurs personnes sur divers horizons, avec divers pensées, ce qui n'est pas possible quand on reste qu'entre nous et quand on s'élève et qu'on se dit qu'on va se porter que nous ensemble. Au bout d'un moment, ça pêche, quoi.
J'ai aussi rejoint la fanfare de ma fac, dans laquelle je suis toujours aujourd'hui et qui est vraiment responsable à mon équilibre. Ça me permet de jouer, d'avoir de très belles amitiés qui m'ont accompagné tout au long de mes études. Ça a été fondamental et indispensable.
Ibi Lola, interne en médecine.
Ce que je me suis dit souvent, c'est que je ne sais pas si je suis faite, entre guillemets, pour être médecin ou pas. Mais en tout cas, est-ce que je suis faite pour être médecin ? Peut-être, oui, j'espère. Est-ce que je suis faite pour les études de médecine ? Non. Je pense vraiment que c'était des études qui, pour moi, ont été globalement assez violentes. Parce que très tôt, je ne me suis pas retrouvée dans la façon dont les études étaient amenées. J'étais très curieuse sur plein de choses. J'avais envie d'acquérir plein de compétences, pas que médicales. Et en fait, à l'heure actuelle, les études médicales, c'est des études qui sont très sanctionnantes si il n'y a pas un certain degré de bachotage, si je puis dire. J'exagère un peu, mais en fait, comme il y a cette espèce d'élitisme, on peut le dire, on nous incite quand même à ce que l'essentiel de notre vie universitaire, ce soit du théorique, ce soit vraiment aller à la BU tous les après-midi, faire nos cours, évidemment aller en stage. Et ce qui sort un petit peu de tout ça, c'est considéré comme étant délétère. Par exemple, j'ai fait un double cursus médecine sciences pendant 2 ans pour alors être amenée à faire de la recherche. Et à un moment, j'avais du mal à trouver un stage pour justement conclure mon double cursus. Et j'ai eu un appel avec une des personnes qui gérait ce double cursus-là. Et en comprenant que je faisais beaucoup d'études associatives, il y avait une remarque assez blessante qui était « Bon, bah, continuez votre associatif, le double cursus pour vous, c'est terminé. » Et ça se voulait pas forcément aussi blessant que ça l'a été, mais il y avait une fois de plus ce discours-là de « Si on veut découvrir autre chose, si on veut sortir un petit peu du cadre très conventionnel des études de médecine, bah, on y a un peu moins sa place. » Et moi, je suis très tôt enfermée dans ce rôle-là de la personne qui n'est pas faite pour, qui n'est pas la bonne étudiante en médecine. Moi, en tout cas, ça m'a marqué dans plutôt le mauvais sens. Même si aujourd'hui, ça va très bien, j'ai trouvé mon équilibre, il y a eu des moments un peu compliqués.
J'ai été étudiante, mais je n'ai pas juré et je ne serai jamais docteur. Souvenir pourtant de la fierté d'en avoir fait partie. Mais aussi souvenir de la douleur de ma famille, d'en être partie. Souvenir d'avoir partagé le ressenti d'Ibi Lola. Souvenir d'une sensation d'étouffement, un manque, celui de ne pouvoir partager dans mon entourage médical proche d'autres choses plus littéraires, philosophiques, voire poétiques. Mon départ s'est fait quasiment à mon insu, sur la pointe des pieds. J'ai été rejoindre le plateau de théâtre, la communauté dont je faisais déjà partie, comme une nécessité, une survie, un rempart contre l'envahissement d'une possible souffrance.
À la longue, cette course permanente à la performance, peut-être associons à ça des facteurs de vulnérabilité préexistants, ont fait que j'ai fini dans une dépression assez sévère, quoi, dont je me suis rendu compte, je pense, bien 2 ans trop tard, et pour laquelle j'ai commencé un suivi il y a bientôt 1 an.
Franck Castillo-Rodriguez, interne en anesthésie.
La dépression, c'est une maladie mentale caractérisée, une vraie maladie. Le suicide, c'est aussi une maladie, mais qui est un peu plus définitive que l'autre. Et tout ça, ce sont des choses qui arrivent. À chaque fois, on met la poussière sous le tapis en disant « il avait des problèmes psychologiques ». Ben oui, forcément, c'est pas la faute du service, c'est pas la faute du travail, il avait d'autres problèmes par ailleurs. Oui, effectivement, mais quand même. Je vais être un peu dur, mais il y a une génération qui doit partir. Clairement. Parce que c'est une génération que moi, en pleine dépression, et dépression reconnue, et je le savais, donc je l'ai pris à la rigolade au moment où je l'ai entendu, parce que je ne croyais pas ce que j'entendais, mais une génération qui disait « Oh là là, les pauvres choux d'étudiants en médecine, il faut de plus en plus s'occuper d'eux, non mais bientôt ils vont venir avec leur doudou, c'est n'importe quoi, etc. etc. » Il y a une génération qui doit et qui va partir. Cette génération, c'est la génération « tu apprendras dans la douleur ou tu n'apprendras pas » et qui prend très mal, le fait qu'on leur reproche de maltraiter leurs étudiants. Ils sont à des postes clés. C'est pas la majorité, et il y en a des très bien aussi, mais il y en a qui... Quand on leur dit il faut respecter les temps, les horaires, ils disent « Oh là là, on les chouchoute vraiment trop. Nous de notre temps, ça le « nous de notre temps », c'est un grand classique. On apprenait à la dure. Ils en viennent même parfois à faire du victim blaming sur des histoires, parfois même d'agressions sexuelles qui ont pu être perpétuées sur des étudiantes. » Le sexisme et la misogynie, ce sont des choses qui sont anciennes. Une certaine classe de personnes les transmettent encore. Cette génération, elle doit partir, en fait. Et la nouvelle doit être plus humaine.
Ah, docteur !
Madame Verdier, alors, comment ça va aujourd'hui ?
Bien, fort bien. Grâce à vous.
Spot, tant mieux. Communication SPS.
Parce que nous, ça va pas. Du tout.
Trois professionnels de la santé se suicident tous les 2 jours. Avant d'en arriver là, des solutions existent. Plus de 100 psychologues sont disponibles pour vous accompagner.
Vous connaissez un proche ou vous êtes vous-même concerné?
Appelez le numéro vert SPS au 0805 23 23 36 ou téléchargez l'application ASSO SPS.
Je suis Catherine Cornibert, je suis docteure en pharmacie et je suis directrice générale de l'association SPS, Soins professionnels de la santé, cofondatrice en 2015. Et cette association a 2 missions, à la fois accompagner tous les professionnels de la santé en souffrance ainsi que les étudiants et agir en prévention pour leur mieux-être. Notre dernière mission, ça a été de créer la Maison des soignants à Paris, qui est un lieu de soins où il y a des entretiens de psychologues tous les mercredis matins. C'est aussi un lieu de formation et d'information où on fait des formations dans le repérage et prise en charge des soignants en souffrance, des formations en respirologie, en syndrome post-traumatique, en sommeil, en prévention du suicide. Les idées suicidaires, c'est pas rare. Les passages à l'acte imminents, c'est pas rare, puisqu'on a eu 40 passages à l'acte imminents ces 2 dernières années. C'est-à-dire que la personne est prête à sauter par la fenêtre, à prendre une boîte de comprimés, à se tailler les veines ou à se pendre. Donc nous, on intervient de façon imminente en urgence. Un interne se suicide tous les 18 jours, je parle que de l'internat. C'est vraiment pour nous très inquiétant, mais en même temps, on a vraiment constaté une augmentation de la détresse là et une perte d'attractivité des étudiants à faire ce beau métier du soin, qui est quand même un beau métier. Les gens engagés, heureusement, il en reste. Il faut absolument les fidéliser, retrouver l'attractivité dans ces métiers du soin.
Il y a une partie de mon métier que j'ai déjà quittée parce que je me sens tout simplement pas à la hauteur. Et l'autre partie, celle qui me procure plus de plaisir et où j'ai l'impression de savoir ce que je fais, pour ainsi dire, elle, par contre... J'y tiens encore un petit peu. Pour combien de temps, je ne sais pas. Je sais que ça m'a vraiment beaucoup fatigué et beaucoup... Le mot dégoûté est un peu fort, mais si le prix à payer est aussi élevé, est-ce que ça en vaut la peine ? La question reste ouverte. Oui, j'y ai songé, comme énormément de gens y ont songé. En envisageant des alternatives qui n'étaient pas forcément, faciles non plus, hein, parce que rien n'est facile dans la vie, je pense. Globalement, le fait d'avoir mené ces études à terme permet d'avoir une certaine stabilité dans l'emploi. C'est quand même une assurance sécurité qui est très confortable une fois qu'on l'a fini. Donc, la reconsidérer totalement, j'en suis pas là, mais j'ai des connaissances qui l'ont non seulement reconsidéré, mais qui sont parties en début d'internat. Parce que on est en permanence à flux tendu sur la brèche. Et le bien-être et la vie de ces gens-là n'a pas de valeur, ce sont des noms dans des cases. Il faut remplir les cases. C'est comme ça que je le vois. Il faut remplir les cases, c'est tout. Et cette déshumanisation en fait de notre profession, même si il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, hein, rien que l'existence de cet établissement le prouve, je pense que c'est vraiment pas exagéré que de dire que il faut investir dans la santé physique et mentale des gens qui s'investissent dans la santé physique et mentale des autres. Pour moi, c'est une évidence. Et pour l'instant, j'ai l'impression que pas assez de choses ont été faites.
L'association, quand elle a commencé en 2015 à communiquer sur notamment les actions à mettre en place, s'est heurtée à des vraies personnes qui ont voulu ne pas qu'on communique, en fait, parce que c'était un sujet tabou, c'était un sujet qui pouvait abîmer l'image de la profession. Et on a eu des institutions assez réputées, qui nous ont demandé de ne pas communiquer. D'ailleurs, tout comme la santé des soignants et maintenant avec la prévention du suicide, on est largement, effectivement, attaqué médiatiquement. Faut pas en parler, faut pas oser. On parle de l'effet Werther, comme quoi c'est contagieux de parler du suicide. Oui, mais je pense que ne pas en parler et ne pas faire d'action urgente, c'est encore pire. Et on sait qu'un suicide, ça impacte 4 personnes de façon très forte autour de soi, donc c'est une famille évidemment, mais ça impacte 135 personnes, c'est-à-dire que quand il y a un suicide dans un établissement de santé, autant vous dire que pendant plusieurs jours et pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, les personnes autour d'elles sont très impactées et très affectées. Donc sans parler évidemment, et ça serait maladroit, mais du coup économique, hein, quand vous avez un interne ou un professeur de médecine après 5, 10, 15 ans d'études se suicide, au-delà de faire un trou dans le parcours de soins, c'est aussi économiquement, c'est très, très très impactant.
Soigner à l'hôpital, mais pas seulement à l'hôpital, bon, nos étudiants sont essentiellement éduqués à l'hôpital, ils vont un peu quand même en stage ambulatoire, en ville, en médecine générale. Tout ça est, et surtout l'hôpital, extrêmement anxiogène.
Professeur Philippe Rusniewski, doyen de l'UFR de médecine.
Et moi, j'avais été très frappé par le fait que les étudiants étaient venus me dire que les stages précoces, c'était formidable, que c'était vraiment très intéressant pour eux, mais qu'en même temps, c'était très anxiogène, et que finalement, et leur image était assez directe, on les poussait dans le grand bain, avec une bonne bourrade dans le dos, sauf qu'on ne leur avait pas vraiment appris à nager. C'est sûr que quand vous êtes en quatrième année de médecine et que vous rentrez dans une réanimation où tout le monde est intubé, ventilé, que vous rentrez dans un service de cancérologie où les gens sont quelquefois gravement malades ou même en fin de vie, eh bien, vous vous trouvez plongé tout d'un coup dans quelque chose d'extrêmement anxiogène. Par ailleurs, indépendamment de ça, le contexte général l'est, il y a beaucoup d'inquiétudes dans la société actuellement, et tout ça aboutit à un niveau d'anxiété des étudiants, j'en conviens tout à fait, qui est inquiétant et que je constate, que je confirme. Alors, on essaye de les aider par des mesures de soutien psychologique, par une commission de bien-être et de la vie étudiante qui les reçoit, qui les écoute, qui, pour les cas les plus sérieux, les oriente vers des prises en charge. Certains ont besoin de prises en charge psychologiques, quelquefois même psychiatriques. Donc, on voit bien que, il y a là un risque. C'est vrai que tout ça est assez anxiogène.
Pour ceux que je vois ici, il y a deux tiers des personnes qui veulent arrêter ou qui se sont carrément reconverties. Parce que pour eux, clairement, il y a eu le Covid. Le Covid, ça a été un vrai rouleau compresseur en termes de prise de conscience. Beaucoup de gens viennent avec l'idéologie qu'ils vont soigner de l'humain, faire de l'humain. Et avec ce qui s'est passé pour le Covid, bon, alors certes, tout le monde a été pris au dépourvu, mais à un moment, il y a eu une gestion qui, pour certains, selon leur dire, parce que moi, je n'étais pas sur place, était complètement déshumanisante. On leur demandait des choses vraiment innommables en termes de prise en charge de la famille, du patient. Et tout ça, ça a été passé sous silence. Beaucoup se sont dit, mais en fait, moi, je ne suis pas venue et je n'ai pas fait ce métier-là pour traiter l'humain comme ça. Et souvent, les personnes qui, du coup, doivent repenser leur carrière professionnelle sont dans une vraie crise identitaire. Et une crise identitaire, c'est très profond, donc ça met du temps. Et pendant qu'ils sont dans cette crise identitaire, le stress, il y a beaucoup de dépression de soi, il y a du coup l'estime de soi qui est entachée sur pas mal de plans, ce qui engendre que pas souvent il y a une grosse dépression qui s'installe avant de pouvoir amorcer quoi que ce soit. Et en fonction de ceux qui peuvent, en fonction bien sûr de l'aisance financière de leur entourage, de leur famille. Il y en a qui partent en retraite, il y en a qui vont faire un petit voyage, deux, trois. Mais dans la globalité, quel que soit ce qui est mis en œuvre autour, intérieurement, ils sont perdus, quoi.
Il m'appelle au secours quand il est malade, je le guéris toujours de ses mots incroyables. Mon docteur ne va pas très bien.
Eh bien, j'ai eu un gros passage à vide, peut-être ça s'est entendu de temps en temps, j'avais plus envie de me rendre au cabinet médical, j'avais plus envie de voir des patients, plus envie de recueillir la plainte des autres. Quand j'arrivais en vélo et en avance le matin, que je voyais 4 ou 5 patients devant la porte du cabinet, en train d'attendre mon arrivée, je soufflais fort dans ma tête et je savais plus vraiment pourquoi je faisais ce que je faisais.
Alors voilà, chronique France Inter, juin 22, Baptiste Beaulieu.
Bref, soigner, c'était devenu mon travail, pas plus. J'avais plus de désir, comme une perte d'élan vital un petit peu. Et tout ça est parti récemment et d'une manière bête comme chou. Je me suis rappelé que en vrai, je faisais pas ça pour moi. Que j'aidais, dans la mesure de mes moyens et de mes compétences, ceux et celles de mes semblables qui venaient à la consultation. Et du coup, j'ai essayé d'être deux fois plus à l'écoute, deux fois plus souriant, deux fois plus patient, deux fois plus attentif. J'ai posé ma main sur leurs épaules en leur souhaitant d'aller mieux. Et j'ai laissé parler les gens deux fois plus, sans les interrompre. J'ai essayé d'être moins pressé et ça a marché. Je me suis remis à être heureux de me lever le matin. La morale, c'est qu'il faut en toute chose donner du sens. Je sais pas, peut-être d'arriver à être heureux en étant satisfait de l'impact positif qu'on peut avoir sur le monde, quand bien même cet impact est plus que minime. On n'a jamais fini d'apprendre à être humain, et comme disait Samuel Beckett, l'air est plein de nos cris et l'habitude est une grande sourdine.
Et prenant sa main, son stylo à encre, elle me disait, certain, demain je m'ouvre le ventre. Mon docteur.
Les études de médecine, c'est une sorte de grand marathon. Il y a des moments assez difficiles, mais elles sont passionnantes. Et d'ailleurs, pour moi, elles sont toujours pas finies parce qu'il me reste un mémoire d'addictologie et un mémoire de fin d'études de psychiatrie à faire pour valider mon diplôme d'état de docteur en médecine.
Ce qu'il a sur le cœur, il peut tout me dire.
Donc pour la suite, dans un premier temps, je souhaiterais travailler comme psychiatre et addictologue dans un hôpital psychiatrique général, à la fois pour poursuivre ma formation et travailler en équipe. Me former à des psychothérapies en parallèle.
Lancée début 2019, une étude de la commission Jeunes médecins du Conseil national de l'Ordre évalue les conditions de l'exercice professionnel et met en lumière les besoins, les attentes et les craintes des jeunes et futurs médecins. Cette enquête démontre qu'il est urgent de changer de paradigme. Pour les jeunes médecins, il ne suffit plus de s'installer dans un cabinet, mais il s'agit de s'insérer dans un territoire. Le cadre de vie, les conditions d'exercice, le travail en réseau avec d'autres professionnels et dans une moindre mesure, les aides financières sont des facteurs clés pour l'installation dans les territoires. Cette étude rapporte aussi le profond décalage entre l'aspiration à l'installation en libéral et sa concrétisation. 75% des internes envisagent ce mode d'exercice contre 19% en activité salariale pure. Pourtant, dans les faits, seuls 12% des nouveaux inscrits à l'ordre en 2018 exercent en libéral.
Moi, je pense qu'ils ont très envie d'exercer, alors sûrement déjà en groupe, Donc même si c'est en libéral, hein, ils aiment beaucoup favoriser les structures de groupe, les centres médico-sociaux, ce qu'on appelait avant les dispensaires, bref, tous ces endroits où il y a moyen de discuter avec ses collègues, de confronter les expériences, de discuter les problèmes difficiles. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le taux d'installation de nos étudiants en fin d'études est très très faible. Très peu d'étudiants s'installent, en tout cas directement en libéral, beaucoup moins qu'avant, c'est moins de 10% d'entre eux. Donc l'hôpital, à mon avis, les intéresse toujours beaucoup. Pas nécessairement le CHU, le fait de devenir professeur, ou etc. Non, ça quelquefois, alors il y en a heureusement un certain nombre que ça intéresse beaucoup et nous les encourage beaucoup dans cette voie. Mais l'hôpital, parce que on a l'impression d'être très utile, parce qu'il y a cette communauté, parce qu'il y a cette possibilité d'échanger, de faire des équipes, hein, le fait de travailler en équipe. Si les difficultés de l'hôpital devaient perdurer ou se majorer, il est clair que ça poserait des problèmes, parce que ça pourrait écarter les étudiants de l'hôpital. Mais je trouve que là, moi, quand je les interroge un peu sur ce qu'ils font et quand je les vois après leur internat, on voit bien quand même que l'hôpital public, l'hôpital privé, les cliniques, voilà, ce sont des modes d'exercice assez différents, mais ils se répartissent, je dirais, encore pas mal dans ces structures de soins hospitalières au sens large.
Moi, il y a plusieurs endroits où j'ai vu des médecins où je me suis dit « j'aimerais bien être comme eux ». Déjà, c'est vrai que moi, j'aimerais idéalement être médecin de service public. Bon, j'ai rencontré des médecins très chouettes en prison, en Cégide, en PMI, donc qui sont des structures publiques. Et aussi, j'ai rencontré des médecins vraiment enthousiasmants dans des centres de santé alternatifs, associatifs, communautaires, puisqu'il y a également des médecins qui ne retrouvent pas vraiment leur place dans ce système et qui cherchent d'autres modèles qui soient moins centrés sur le médecin, qui ne soient pas centrés sur le paiement de la consultation et qui crée des choses vraiment enthousiasmantes avec d'autres professionnels de santé, en se mettant dans les quartiers. Tout ça, ça me fait rêver.
Ces études mènent à tout ou presque. On peut se professionnaliser selon les besoins sociétaux ou selon sa propre déontologie. Il y en a qui arrêtent, comme le chanteur Ben Mazuet. Il y en a qui conjuguent deux activités, comme Baptiste Beaulieu. Il y en a même qui deviennent célèbres. Et puis, il y a des personnes qui cherchent à ébranler la formation pour changer la perspective des soignants, en intégrant par exemple des profils discriminés a priori ou en prêtant attention à l'histoire des patients. À Bobigny, dans un local qui ressemble à un Algeco, je me retrouve assise entourée d'un groupe de trois jeunes internes du 93, d'une patiente de la perspective patient et d'un enseignant de la perspective soignant. Il se produit quelque chose auquel je n'ai jamais assisté durant mes études. Un débat bienveillant entre eux à partir d'un cas clinique que rapporte un des jeunes.
Moi, Anthony Dos Santos, je suis médecin généraliste au centre de santé de Livry-Gargan. Assistant universitaire à la faculté depuis presque 3 ans, membre de la commission des stages au sein de la faculté.
Moi, je m'appelle Muriel Londres. Je suis enseignante de la perspective patient depuis à peu près 2016. Mon histoire, c'est l'histoire d'une personne qui a été confrontée à la maladie chronique, on va dire, assez jeune avec mes parents. Et puis, j'ai eu des problèmes de thyroïde qui m'ont amené à consulter Internet. Et
donc, je suis Olivia Gross, je suis titulaire d'une chaire de recherche que l'Université Sorbonne Paris-Nord a créée il y a 2 ans, chaire de recherche sur l'engagement des patients. Université Sorbonne Paris-Nord, mais dans l'UFR Santé, Médecine et Biologie Humaine, donc en gros dans un lieu de formation des médecins et d'autres professions de santé d'ailleurs. Avant de devenir universitaire, j'ai un long parcours associatif et purement associatif dans le champ des maladies rares parce que j'avais un enfant malade et j'ai beaucoup fréquenté donc le système de soins, beaucoup d'autres associations, beaucoup d'autres personnes. Enfin, je pouvais que faire le constat qu'il y avait beaucoup de bonnes choses dans le système de santé, qu'on réparait beaucoup de choses à droite, mais qu'on abîmait aussi beaucoup de choses à gauche et qu'il y avait beaucoup de dommages évitables.
Donc l'idée était d'améliorer tout ce que le patient vit dans ce parcours de soins. C'est vrai qu'on a eu une opportunité au départ, hein, une connexion particulière entre l'un des directeurs du laboratoire éducation et promotion de la santé, Pierre Lombraille, et ce service de médecine générale de Bobigny. Et le déclencheur, ça a été de se dire qu'en médecine générale, et ça c'est national, c'est une formation qui vise le développement de 6 compétences, dont une est au centre, c'est la mise en œuvre de l'approche centrée sur le patient. Et donc, le jour où je leur ai dit, mais comment vous pouvez croire que vous enseignez l'approche centrée sur le patient sans patient, est-ce que ça a du sens? Ça a fait mouche.
Ben moi, c'est Bouhanni Chamine, je suis interne à la faculté de Bobigny Paris 13. Je suis dans mon 4e semestre, qui va bientôt se terminer du coup. Je suis en médecine polyvalente et soins à Magnan-Vexin, dans le 95.
Donc moi, c'est Satya Scheherazade, également en fin de 4e semestre. Actuellement en pédiatrie à Jossigny, à Marne-la-Vallée, à côté de Disney. Mon prochain stage, ce sera...
Moi, je m'appelle Benkala Yousra, je suis interne également en 4e semestre en stage de médecine polyvalente à l'hôpital de Gonesse. Je fais 3 mois de diabétologie et 3 mois de médecine interne. C'est un stage qui se passe très bien, qui est très épanouissant.
Au tout départ, on m'a dit, écoute, les étudiants sont surchargés, ils sont beaucoup en stage, ce qui est vrai, hein, évidemment. Quand ils viennent à la fac, ils en ont déjà trop. Donc, n'ajoute pas de cours, viens regarder ce qu'on fait et dis-nous ce qu'on peut ajouter, mais à l'intérieur de l'existant. À ce moment-là, en France d'ailleurs, pas seulement ici, une grosse partie des cours, au niveau de l'internat de médecine générale, se passe de la manière suivante, sous forme d'analyse réflexive de pratique des étudiants suite à des prises en soins qu'ils ont réalisées sur leur lieu de stage et qui ramènent en cours et autour desquels ils débriefent avec leurs collègues, sous la guidance d'un médecin enseignant à l'époque. Et en se disant, voilà, il faut qu'on analyse cette situation au niveau bio, psycho, social, donc dans une approche holistique. Donc, dans ces analyses de pratique, donc sous la guidance d'un médecin enseignant, mais le médecin enseignant n'est pas là comme un expert. Il est là pour faire réfléchir les étudiants. Donc ça aussi, ça a été la deuxième consigne qu'on m'a donnée. Si le médecin enseignant n'est pas un expert et que déjà il a du mal à se départir de sa posture d'expert, il n'est pas question que des patients arrivent dans une posture d'expert parce que ça serait d'autant plus insupportable pour les premiers. Et pas juste. Donc eux aussi, il faut qu'ils soient dans une posture qui suscite la réflexivité des internes.
Pourquoi dans certaines situations, alors je reprends tes termes, ils piqueraient une crise?
Pour une famille qui voit un patient décédé, c'est très déstabilisant.
Pourquoi?
Parce que c'est ça fait partie d'une étape du deuil aussi. Mm-hmm. Donc... Alors, je sais plus de qui, mais parmi les états du top, il y a la colère, le déni, l'acceptation. Et, mm-hmm. Ça aurait été tout à fait légitime qu'un jour, il y a un moment où ça va mal se passer, où ça va déborder.
Si j'ai bien compris le modèle là, dont tu parles en question, maintenant la science, elle dit que ça se passe pas nécessairement comme ça en fait. Il y a pas obligé qu'il y ait une phase de colère dans la gestion d'un deuil.
D'accord.
Et si tu vois d'autres choses, ou même le groupe, est-ce que vous voyez d'autres choses qui pourraient conditionner alors,
la formation, c'est un espace-temps où il y a beaucoup de reproductibilité sociale. Leurs enseignants ont été formés il y a 40 ans. Et puis surtout, on a une médecine qui a été pensée par les médecins, sur les patients, et qui contient certains biais presque structurels. Tout l'informel, tout ce qui est véhiculé entre étudiants, sur les lieux de stage, ce qu'on appelle le curriculum caché ou le curriculum informel, est responsable aussi de beaucoup de jugements dans les soins. On entend souvent, on nous enseigne que le patient ment toujours. En réalité, il n'y a jamais eu un enseignant sur une estrade qui l'a dit comme ça, mais ça se véhicule tout au long de la formation. Les pédagogies peine, quoi qu'elle mette en place, à développer les savoir-être des étudiants. Il y a énormément de choses encore aujourd'hui qui nécessitent d'être réinterrogées. C'est un peu ça le pari, en fait, ou l'idée. C'est de se dire à chaque fois que les patients peuvent apporter quelque chose de complémentaire, de différent, qui vient enrichir ce qui est fait à l'heure actuelle.
Je vais parler d'expériences personnelles et d'expériences que j'ai recueillies dans mon entourage. Par exemple, la possibilité d'accompagner le patient et d'avoir accès à son lit, c'est quelque chose qui est vachement important. Moi, par exemple, je n'avais pas accès à ma mère en réanimation tout le temps. Voilà, elle a eu une septicémie, elle était dans le coma et elle allait beaucoup mieux. Donc, du coup, ils l'ont extubée et ils ont refusé que j'assiste à l'extubation, malgré que j'ai eu carrément un chef de service de réa qui a appelé pour expliquer en fait que si je disais que j'étais capable, en fait, c'était possible de le faire. Donc, le chef de service de réa de Gustave Roussy qui a appelé le chef de service de réa où ma mère était hospitalisée dans le sud de la France. Et donc, du coup, moi, je me suis retrouvée dans une position, en fait, où j'étais avec interdiction d'être en salle d'attente, même, où j'étais chez moi à entendre un coup de fil. Donc, tu vois, ça, c'est des critères, en fait, qui sont des critères objectivement maltraitants de l'institution, qui rendent difficile l'accompagnement d'une personne en fin de vie. Bon, après, enfin, j'ai réglé mes petites affaires, j'ai pu avoir un entretien avec la réa après. Ma mère est restée 15 jours hospitalisée en réa pour se retaper. J'étais très satisfaite, in fine, de la prise en charge, et j'ai pu régler, on va dire, mes différends avec l'équipe de façon très posée, mais parce que j'ai de la bouteille, quoi. Mais quelqu'un qui a pas de bouteille à ma place, qui connaît pas bien le système de santé, qui a pas dans sa poche un chef de réa qui lui dit « Muriel, tu es légitime pour demander à assister à l'extubation de ta maman », il peut être en colère. Donc, y a
alors, des je voulais aussi qu'ils aient une bonne connaissance des droits des malades, parce qu'après mes observations, j'avais vu que les étudiants ne convoquaient jamais en situation les droits des malades. C'est-à-dire qu'ils sont capables de les réciter sur une copie, jamais de penser à les convoquer en situation réelle. À tel point d'ailleurs qu'avec le groupe de patients enseignants que j'ai constitué, on a appelé ça une matière morte. Des fois, ils se prennent la tête. J'ai pu assister à des débats. Est-ce que un patient a le VIH, sa femme est enceinte, elle n'est pas au courant que le patient a le VIH, je vais prévenir la femme que son mari a le VIH parce que c'est non-assistance à personne en danger. Or, la non-assistance à personne en danger répond à des critères juridiques très précis. Il y en a trois, on n'est pas là-dedans. Et deux, on a des jurisprudences qui disent que, bien sûr, le secret médical prévaut, y compris dans ce type de situation, parce que justement, il n'y a pas un péril imminent. En revanche, la bonne pratique, c'est bien sûr d'essayer de convaincre le patient, d'en parler à sa femme et de l'accompagner dans cette démarche. Évidemment, on n'abandonne pas la situation comme ça. Mais je voyais les étudiants, en réalité, débattent de ça comme si ça n'avait pas été déjà tranché par la loi. Là, en plus, c'est tranché par la loi. Quand ils ont la chance que ce soit tranché par la loi, ils ont suffisamment de dilemmes, ces pauvres étudiants. Sauf que souvent, ils voient les droits des malades comme quelque chose qui vient s'imposer à eux de l'extérieur et ils ne le voient pas comme une solution. Et voilà, l'idée, c'est de leur dire, mais c'est une solution.
À partir du moment où un patient, il est en soins palliatifs et en fin de vie, c'est législatif, presque. Il y a un article du Code de santé publique. Le secret médical, il est. Il s'oppose plus au patient. Donc on se doit de prévenir la famille que le patient va se dégrader. Et que potentiellement, ça peut mal finir et il peut en décéder. Donc oui, ça a été une décision finale prise. Donc la famille est avertie.
Au fil des années, c'est un programme, voilà, malgré les résistances initiales des étudiants, de certains enseignants, du département, hein, qui se posaient aussi quelques questions, qui avaient très peur c'était très innovant, hein, de ce qu'ils faisaient. Eh bien, ça a entraîné une adhésion massive. C'est l'une des plus grandes fiertés que j'ai. On a des étudiants qui choisissent Bobigny pour ce programme.
Le problème n'est pas qu'au niveau de la formation, parce que il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites pour améliorer les formations des soignants, en particulier en rajoutant des sciences humaines. Je pense que c'est une très bonne chose, mais tant que ça reste la profession de médecin, en tout cas quelque chose de très élitiste, très privilégié comme ça l'est aujourd'hui, ça changera probablement pas la reproduction sociale qui s'y trouve, ni le pouvoir exercer à la fin avec des abus également. Il faut à la fois changer la formation, mais il faudrait aussi réduire le pouvoir médical, démédicaliser les choses. En fait, il y a beaucoup de travail.
C'est énorme.
Oui,
oui. Mais vous y croyez encore quand même. Vous allez.
Oui, il faut.
Cagoulé, c'est toi, on a récupéré le point de deal. Quartier nord de Marseille, dans les ténèbres, tu connais ma ville. T'as braqué la nourrice, t'as baissé dans l'espérance de vie. Oh.
aimé avoir le bac, à l'école être un crack et faire de grandes études d'économie à la fac. Mais j'ai fini dans le bloc, insulté par le proc, insulté par une équipe en giro qui roule à 4. Y'a du Manès à 23, vas-y prends 10 kills de frappe.
En quittant Bobigny pour rejoindre Marseille, je ne peux m'empêcher de songer au statut particulier de cette faculté de Bobigny Paris 13, la première à avoir conçu en 2012 une prépa publique et gratuite pour favoriser l'égalité des chances à l'entrée en médecine dans le 93. Dans le département des Bouches-du-Rhône, 13, l'association marseillaise Le Sel de la Vie a lancé Médan Pharmakiné, une écurie solidaire créée par Salim Grapsi, Noé Jedouab, Aïssa Grapsi, qui nous conduit maintenant dans le quartier de son enfance.
Le quartier ne donne pas de perspective.
Bon, excusez-moi, je vous interromps, mais parce que je regardais en même temps, je viens de voir un truc pour le rappeur, hein, non,
c'est ça, Soso Manès, ouais.
Qui vient de Fontvert. Hein.
Qui est de Fontvert, absolument.
Ah, d'accord. Ah, ouais, hein.
Exactement. Il y a quand même des talents, ça, c'est à remarquer. Et donc, je disais, des trajectoires sociales qui vont être empêchées, un peu, c'est comme si on avait chronique d'une mort sociale individuelle annoncée, parce que, pour l'essentiel... L'école ne va pas être, pour un grand nombre, la possibilité de pouvoir connaître des trajectoires ascendantes, socialement parlant. Mm-hmm. Et puis, pour un certain nombre d'entre nous, les filles, mais aussi pas mal de garçons, ils vont réussir, ils sont en quelque sorte des rescapés d'un environnement qu'on pourrait imaginer comme étant quelque part des sables mouvants, et on a attrapé la bonne branche, et on s'en est sorti quand les autres, difficilement, donc qui donnent des trajectoires totalement différentes. Et donc si on regarde par exemple l'écurie sociale et solidaire, on a des enfants qui viennent de quartiers populaires, ça peut être Fontvert, ça peut être les Flamands, ça peut être Picon, la Busserine, etc. Et c'est une façon de dire aussi que pour ces jeunes-là, comme nous l'avons été, construire un parcours vers des études d'excellence, ici en l'occurrence de médecine, dentaire, pharmacie, etc., c'est envisageable, mais pour peu que, en quelque sorte, on ait un peu déblayé le terrain et pour que... la forêt tropicale de type amazonienne ne se transforme pas en piège pour eux, quoi, tout simplement. Mmh. Voilà, c'est Fontvert. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Si vous regardez ici, vous avez le bâtiment S2, et puis là-bas, vous avez le bâtiment S3, là où moi, j'ai grandi jusqu'ici.
Ah oui. Mais est-ce que c'est bon pour toi que 37, c'est bien 38 molécules d'ATP?
Oui.
J'ai jamais dit 48.
Oui,
là, c'est du coup, c'était et juste, et du coup, c'était...
Du coup, j'ai fait faux.
Non.
C'était faux.
Je pensais que c'était vrai, du coup là j'ai juste alors que... Ouais. Mais 24 molécules. Je m'appelle Ishma Hassani, j'ai 20 ans. Je suis tutrice à Pharmakiné, tutrice de biochimie et de physiologie. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis ici et je suis en troisième année de médecine en septembre. J'ai vécu dans une famille modeste, du coup, on habitait dans les quartiers nord de Marseille, dans le 14e arrondissement, plus précisément les Flamands. J'ai toujours été très scolaire, j'ai toujours eu de très bons résultats à l'école, mais j'ai jamais eu confiance en moi, et d'ailleurs, je n'ai toujours pas confiance en moi. Souvent, quand on vient de ces zones-là, on nous met souvent dans la tête que on est dédié à tel ou tel métier, que ça va être super dur pour nous d'accéder à telles études, et c'est ce qu'on m'a dit dès le collège. Moi, j'étais un peu perdue au niveau de mon orientation, ça n'a jamais été vraiment médecine dès le premier... des petites en fait, j'ai commencé à y réfléchir au collège et il y a quelqu'un qui m'a dit clairement, tu viens du collège Édouard Manet, déjà ça va être difficile pour toi de faire la transition au lycée, les études de médecine c'est la dépression, c'est difficile, donc des gens qui viennent de votre milieu, c'est pas que c'est impossible, mais ça va être très difficile pour vous. T'es très jeune quand on entend des professeurs qui vont dire à certains élèves, ah non mais toi tu vas finir mère célibataire à 16 ans, j'ai déjà entendu ce genre de remarques, je n'invente pas, ou des préjugés en mode, tu n'as qu'à finir en pro, tu vas rater ta vie. C'est des mots qui sont très durs, mais c'est une réalité. Et c'est pas tous les professeurs bien évidemment qui le disent, mais ce message il est véhiculé d'une manière ou d'une autre, voilà. Donc moi bien évidemment j'ai baissé les bras, et c'est en terminale que j'ai décidé, vu que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire et que j'étais dans la filière scientifique, de tenter du coup la première année de médecine. Parce que voilà, j'ai toujours été très touchée par la relation du coup humaine qu'il y avait dans la santé. J'étais très admirative à l'époque de ma pédiatre aussi. Donc je me disais, pourquoi pas en fait.
Et puis d'autre part, vous êtes une femme.
C'est ça.
Et alors
C'est plus difficile en plus quand on est une femme. Je me permets de dire qu'aussi je suis une femme noire, que je suis aussi musulmane. et que du coup bah, c'est la totale, c'est super, c'est le combo pour avoir toutes les discriminations possibles. Donc voilà, c'est assez dur en fait de se mettre en confiance, et il faut franchement, moi, si aujourd'hui je dois transmettre un message à mes tutés, c'est justement de faire tout le contraire de moi, c'est d'avoir confiance en soi, de croire en nos rêves, et qu'il faut rêver, parce que du coup moi j'ai l'impression de pas avoir vraiment eu l'occasion de rêver et de pas se fermer des portes, parce que quelque part la réussite elle est offerte à tout le monde, mais on parle juste pas des mêmes moyens, voilà, c'est tout. Mais après, c'est au niveau du ressenti. Est-ce que je me sens vraiment à ma place? Ça, c'est autre chose. La réponse, c'est non. Mais pourquoi? Ça va venir. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un peu toute la construction mentale que j'ai eue avant quand j'étais plus jeune qui m'a fait sentir différente. Du coup, je suis obligée de me sentir différente alors que pas forcément, en fait. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se travaille et que peut-être avec le temps, je me sentirai un peu plus légitime et à ma place dans ces études.
Ambivalence. En immersion, je me sens entre deux. J'éprouve à la fois une nostalgie et un soulagement. Je ne suis plus entre deux classes sociales, entre les seniors, les juniors, les anciens carabins et les nouvelles générations. Mais je sens poindre une petite révolution générationnelle. Les jeunes veulent réinsuffler du sens à leur pratique de soins et la boucle est bouclée. Et Salim Grapsi évoque en quoi, selon lui, il était nécessaire de mettre en place ce genre d'écurie sociale.
Comment est venue l'idée de l'écurie? Les besoins des familles qui nous ont interpellés en nous disant « aidez-nous à sauver ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire nos enfants ». Énormément de jeunes filles et de jeunes garçons issus de ces territoires, de ces quartiers, qui font partie du triangle de la mort, hein, c'est-à-dire... Certains quartiers, à eux tout seuls, il y a entre 5 et 10 règlements de compte par an. Donc ces jeunes-là, qui sont issus de ces territoires-là, de ces quartiers-là, qui vivent dans des conditions socio-économiques dramatiques, ils ont le bac avec mention. Et ils se destinent à faire médecine. Et on découvre, en tout cas moi personnellement, je découvre que pour faire médecine, pour pouvoir réussir, il faut des sous, il faut une écurie. Donc avec Aïssa, on s'est dit, c'est juste pas possible, quoi. Parce que nos territoires, il y a des diamants à l'état brut. Et on veut montrer qu'il y a de l'excellence et que nos territoires ne sont pas uniquement que des problèmes. Il y a énormément de solutions. Moi, je parle de mon cas, je suis au lycée Diderot. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui se prédestinaient à faire médecine. Et sans que ce soit péjoratif, je les ai retrouvés caissières ou manutentionnaires à Carrefour-le-Merlan. Donc lorsqu'on discutait avec eux, pourquoi? Ben oui, il y a effectivement les conditions, conditions, j'allais dire, sociales, mais il y a aussi les conditions financières. Voilà. Et ça, c'est juste, en tant que fonctionnaire, en tant que citoyen, c'est juste, c'est criminel, quoi, que des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont le potentiel, qui ont l'envie, ne soient pas sur la ligne de départ. Qu'on les mette sur la ligne de départ, qu'on les traite à égalité avec les autres, qu'on leur donne les mêmes moyens. Après, qu'ils échouent, c'est une chose, mais au moins, on leur a donné leur chance. Et il n'y a rien de pire qu'un jeune à qui on ne donne pas sa chance.
Et vous pensez que ça peut changer les médecins de demain ?
Ah ben oui, parce que déjà, on casse une forme de reproduction sociale. Déjà, ça c'est la première des choses. La seconde chose, c'est qu'on permet, à travers cette écurie, à des jeunes, et jeunes filles, jeunes garçons issus d'horizons différents, de se côtoyer, d'apprendre à se connaître, de faire tomber les barrières. Là, c'est à la mode depuis des années, ça fait maintenant plus de 2-3 ans, on entend parler des déserts médicaux, d'accord ? Et nous, on le vit de plein fouet. Lorsqu'on prend la cité Jean Jaurès, la Méditerranée, il y a 5000 habitants, le dernier médecin est parti. Donc, ce qu'on fait avec l'écurie, nous, ici, des jeunes filles et jeunes garçons qui sont issus de ces territoires-là, de ces quartiers-là fracassés, ils ont un lien affectif avec le quartier parce que on y vit depuis 30, 40 ans. Il y a les grands-pères, les grands-parents qui sont encore là, les parents. Donc, nous, notre but, c'est qu'ils réussissent leur vie, d'accord ? Leur vie va changer s'ils deviennent médecins. C'est vrai qu'ils passent à autre chose. Ils s'en sortiront eux et par ricochet, leur famille s'en sortira aussi. Mais parmi les jeunes filles et jeunes garçons que nous avons, nous on estime entre 20 et 25% parmi eux qui reviendront dans ces territoires-là. Y vivre? Non. Y travailler? Oui. Il n'y a pas de souci. Donc, l'air de rien, ce qu'on fait, ben, on répond à un besoin. C'est une problématique qu'on espère pouvoir solutionner à partir dans 6-7 ans. Parce qu'on a des étudiants qui sont déjà en troisième année de médecine. À notre petit niveau, ben, on planifie comment réparer nos territoires à travers la médecine, à travers les actions éducatives. Donc on a cette vision à la fois micro et macro.
à notre niveau, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de recoudre un petit territoire. Si chacun fait ça de son côté, je pense qu'on va pouvoir, j'allais dire, recoudre le gros trou qu'il y a dans la raquette.
Merci beaucoup à Pauline, jeune médecin généraliste, prénom de substitution, Léopold, Christian Bonnat, épistémologiste et historien des sciences, Ibi Lola, prénom de substitution, interne en médecine, Franck Castillo-Rodriguez, nom de substitution, interne en anesthésie à Grenoble, faisant un inter-CHU à Paris, Catherine Cornibert, directrice générale de SPS, soins aux professionnels de la santé, professeur Philippe Rusniewski, doyen de l'UFR de médecine, Célia Belle-Rose, docteur en psychologie clinique et neurosciences, Olivia Gross, titulaire de la chaire de recherche Engagement des patients Sorbonne Paris Nord, Anthony Dos Santos, médecin, Muriel Londres, e-patiente. Merci au groupe d'internes du GEPRI, à Asia et Salim Grapsi, cofondateurs de Médan Pharmakiné, à la tutrice Ishma et à tous les étudiants de l'écurie sociale. À tous les amis, à la fanfare. Prise de son à Marseille, Geoffrey Marianne. Mixage, Julien Douminc. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. La Fabrique des médecins, après le serment, quelle perspective? Un documentaire de Juliette Boutillier, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Réaldo Colombo, Jean Bourger, Jean Dossé, Christian Bernard, André Léon Schwarzenberg, Andrea Cesalpino, Peter Safar, Gaspard Christian Azili, Cabrol, Edward Jenner, John Locke, Jean-Nicolas Corvisart, Carl Jaspers, James Parkinson, Averroes, Dominique Jean Larrey, Rabelais, Guillaume Dupuytren, René Laennec, Anton Tchekhov, Armand Trousseau, Louis-Ferdinand Céline, Claude Bernard, Jean-Martin Charcot, Michael Bulgakov, Joseph Lister, André Soubiran, Jean-Christophe Ruffin, Marc Zaffa, Hector Berlioz, alias Martin Wendel, Alexandre Borodin, Jean-Paul Marat, Che Guevara, Bernard Kouchner.
Mécanique du vivant, une collection de podcasts France Culture.
Il y a 40 000 ans, les derniers hommes de Néandertal disparaissent. Deux espèces de mammifères survivent grâce au collectif. Les premiers sont les hommes, les autres sont les loups. Ils sont voisins, souvent rivaux et parfois ennemis.
Mécanique du vivant, saison 1, Le Loup. Une collection de podcasts de Marc Mortelmans, réalisée par Charlotte Roux. Avec le Zooparc de Beauval et l'association Beauval Nature.